Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Quand nous commençons la lecture du livre « Vivre à Hébron » de June Levitt, aux éditions Robert Laffont, aujourd'hui nous devons nous rappeler de l'atmosphère qui règne autour de June et sa famille à Kiryat Arba et Hébron. En bref, quand ils sont revenus de quelques jours de congé dans la région de Eilat au kibbutz Lotam et qu'ils sont rentrés à Kiryat Arba, elle a constaté « Pendant notre absence, les choses ont évolué vers le pire. Absolument interdit pour les Juifs de Kiryat Arba d'aller jusqu'à Hébron. Et cette fois, le ghetto est absolument hermétiquement clos. On dit que ce ne sont pas des mesures pour nous protéger, mais pour faciliter notre évacuation par l'armée. On dit même que Yitzhak Rabin a déjà accepté la venue d'observateurs de l'ONU dans les zones occupées. Quelle est donc la perspective d'avenir en ce moment pour la famille de June? Reprenons notre lecture pour le savoir. 6 avril. Je suppose que c'est une magnifique journée de printemps. Une de ces journées où il ferait bon être dehors, allongé sous la douceur du soleil, dans le parfum des fleurs et l'odeur de la terre qui se réchauffe en écoutant le roucoulement gracieux des colombes. Je me dis qu'après tout, il est possible que Baruch Goldstein ait fait quelque chose de positif. Depuis le massacre qu'il a commis, aucun juif n'a été tué. Je sors de la maison et j'entends les nouvelles. Une voiture bourrée d'explosifs et conduite par un terroriste suicidaire vient d'exploser contre un autocar scolaire à Afoula. Bilan, au moins 8 morts et de nombreux blessés. D'autre part, à Hébron, les Juifs se retrouvent en quelque sorte prisonniers chez eux. Il leur est interdit de sortir sans une escorte de l'armée. Et comme les soldats sont rarement disponibles pour ce genre de tâches, les gens restent cloîtrés dans leur maison. Et il est aussi interdit de leur rendre visite. Mais Frank a toujours trouvé le moyen de passer les clôtures et d'échapper à l'armée, rejoignant en voiture, comme d'habitude, l'université de Beersheba. Malika Eken, la veuve de Yona, est arrivée aujourd'hui à Kiryat Arba, complètement retournée. « Tu ne croiras jamais ce que l'armée nous a fait. Nous sommes descendus dans la rue pour réciter les psaumes. Eh bien, les soldats nous ont refoulés et durement même. Nous les femmes juives. Ils n'ont pas le droit de toucher les femmes arabes. Mais nous, oui. Et les ordres viennent de haut en plus. » Et elle a ajouté, « Dans l'autre monde, quand les juifs d'Hébron seront tous réunis, « toi et Franck, vous serez avec nous et au premier rang. Un autre monde ? Difficile de croire qu'il puisse jamais exister. » Cette manière de mépriser les Juifs d'Hébron est soit une préparation de leur évacuation, soit le désir de rendre la vie ici à ce point invivable que nombre de colons partiront d'eux-mêmes. Nouveau signe d'ailleurs de cette aggravation, un blackout complet a été ordonné pour Kiryat Arba et Hébron. Même les journalistes et les photographes de presse sont désormais interdits. 8 avril, vendredi, une nuit du Shabbat. Jesse Jackson, un pasteur et politicien noir des États-Unis, va venir à Hébron. Mais il nous est interdit de nous y rendre pour la prière du vendredi soir. Les soldats barrent la sortie de Kiryat Arba juste avant la route qui mène au caveau des patriarches. Les Juifs vont donc prier sur la route, devant le barrage. Frank a demandé aux soldats s'ils pouvaient passer pour aller voir des amis arabes qui vivent derrière la clôture de la colonie, les Dana, que nous connaissons depuis des années. Refus. Les ordres ont été donnés par le haut commandement pour que les Arabes et les Juifs ne puissent se rencontrer. Quelle folie ! Un monde de mensonges et d'hypocrisie. C'est cela le processus de paix ? Dans un ghetto, les rumeurs courent comme l'éclair. La dernière est que Jesse Jackson a pris la parole dans le séminaire islamique d'Hébron. Il a demandé aux garçons d'abandonner la guerre des pierres. En réponse, une bagarre a aussitôt commencé. 9 avril. Beaucoup de bruit aujourd'hui, bien que ce soit le Shabbat. Les enfants juifs jettent des pierres à leur tour et se disputent avec les soldats. Ceux-ci ont l'ordre d'interdire l'espace devant notre immeuble d'où les enfants lancent les projectiles. Les gosses conspuent les soldats, sifflent, hurlent. Un groupe de filles est là et ils chantent. Baruch est notre héros, celui qui est entré dans le caveau des patriarches, Baruch a mis à mort les Arabes. Elle chante sur l'air d'une chanson biblique de Myriam qui raconte comment la mer Rouge s'est ouverte devant Moïse et a noyé l'armée égyptienne. C'est aussi l'air d'une chanson de Déborah qui, elle, raconte comment Jaël a invité son ennemi Sisara sous sa tente pour le saouler avant de l'assommer. Les gens d'ici se saoulent avec la Bible. Peut-être même sont-ils ivres de Dieu ? En fait, les enfants juifs qui jettent des pierres sont souvent livrés à eux-mêmes. Lorsque Frank proteste, il obtient toujours la même réponse. « Que voulez-vous que j'y fasse ?» Dès qu'on tourne le dos, il lance des pierres sur les Arabes. « Punissez-les vous-même si vous voulez. » Vous n'êtes pas capable de vous faire obéir par vos gosses. Ah, c'est pas le problème. Et ainsi, les enfants grandissent ici sans jamais qu'on se soucie de leur faire respecter la loi et l'autorité. Une amie m'a dit « Cela me fait peur de voir que nos enfants tirent toute leur valeur de la rue. Mes fils sont furieux contre nous parce qu'on ne pense pas que Baruch soit le plus grand héros de la nation juive. » Mon mari a essayé de leur expliquer que les massacres ne sont pas une solution, mais ils ne veulent même pas nous écouter. Les mêmes enfants traitent les soldats d'impuissants. Un garçon de 10 ans s'est disputé avec Yossi. « Regarde un peu ce qu'il m'a lancé, ton copain l'arabe. T'as vu la taille de cette pierre ?»« Mais tu lui as lancé aussi toi-même des pierres ?» a protesté Yossi. « Ouais, et alors ?» C'est bien fait pour lui, c'est un arabe. Ce n'est pas le moindre effet du terrorisme arabe que d'avoir rendu nos enfants totalement fanatiques. L'air devient irrespirable. La tension est si forte que tout le monde est convaincu que quelque chose va arriver et s'y prépare. À force de se préparer, quelque chose certainement arrivera, n'importe quoi. Un faux messie, ou le vrai, ou le coup de feu en trop qui déclenchera la Troisième Guerre mondiale. 10 avril. Notre voisin Avner Gilboa vient de sortir de prison où il était en détention administrative. Il a arrêté Samuel pour lui dire quelques mots. « C'est une drôle d'époque, n'est-ce pas ?»«
Oui, » admit Samuel.
« Il y a beaucoup de choses qui changent. » Beaucoup de choses qui vont arriver aussi, c'est dans l'air.
Je sens ça, moi aussi, dit Samuel. Mais je ne comprends quand même pas ce qu'il se passe.
Je ne sais pas non plus.
Mais on ne peut pas comprendre, parce que nous ne sommes pas Dieu. Il faudrait être Dieu pour tout savoir.
11 avril. Un parc dans Jérusalem. Délicieux de sortir de l'hystérie de Kiryat Arba. Quoi que l'on fasse, dès que nous sommes là-bas, nous sommes emportés par l'obsession de la rédemption, l'obsession des signes et des révélations miraculeuses de Dieu. Comme il est doux d'être simplement assis dans un parc et de voir un jardinier retourner la terre des plates-bandes avec sa bêche, voir des gens vaquer à leurs occupations, simplement soucieux de leurs tâches. En vérité, je ne suis pas certaine que tout le monde à Kiryat-Arba perçoive cet angoissant frissonnement de l'atmosphère qui nous enveloppe. Ce matin, j'ai demandé à ma voisine du dessus de fermer la porte de son appartement parce que le bruit de sa radio résonnait jusque chez nous. Elle s'est exécutée de mauvaise humeur avant d'appeler sa belle-sœur. « Ben, qu'est-ce qui lui prend maintenant? Il faut que j'arrête la radio dans la journée? Elle veut mourir ou quoi ?» Dieu merci, nous avons, Franck et moi, le droit de sortir de Kiryat-Arba quand nous le voulons et la possibilité de voir les choses avec un peu de recul. Et dehors, la vie possède le rythme de la vie, jour après jour. À Kiryat-Arba, il semble que les siècles, parfois, se contractent en quelques secondes. 12 avril. De retour. L'omniprésence des soldats commence à nous porter sur les nerfs. Ils sont partout, en service de repos, comme ils disent, allongés sous les tentes devant l'immeuble. Et l'on finit par se demander ce qu'ils font ici. En fait, non, on le sait très bien. Nous empêcher de descendre à Hébron, limiter notre liberté. Pour la première fois, je commence moi aussi à éprouver du ressentiment envers ces soldats. 13 avril. Je sais que je me répète. Je sais que je ressasse toujours les mêmes choses. Mais il y a encore eu un attentat ce matin. La bombe était cette fois placée dans le compartiment à bagages d'un car. 6 morts et 21 blessés. Je ne crois pas que le gouvernement de gauche se rende compte à quel point il pousse les gens dans les bras de la droite. Cette paix n'est pas crédible. Je suis certaine qu'aux prochaines élections, la droite gagnera haut la main. Mais à ce moment-là, l'État palestinien existera peut-être. Cet attentat arrive alors que c'est pour Israël le jour du souvenir qui commémore tous les morts tombés pour le pays. Comme lors du jour de l'Holocauste la semaine dernière, les sirènes hurlent et partout dans le pays, les gens restent debout en silence pendant quelques minutes. La violence sera-t-elle notre compagne éternelle ou sa fin appartient-elle à ce futur indéfini qui est aussi celui du Messie? Par essence, il viendra. Mais ce lendemain est repoussé de jour en jour. Jamais il ne devient un aujourd'hui, et la paix semble vouloir aussi arriver demain. Sera-t-elle jamais un aujourd'hui? Il y a quelques jours, des extraits de ce journal parurent dans le US News and World Report, illustrés par les photos de notre famille. Est-ce que cela signifie que les choses changent pour nous? Le début d'une carrière pour moi? Et si cela était, en quoi ai-je vraiment envie que cela change? Pour les enfants? Bizarrement, Kiryat-Arba, que j'ai tant haï, commence à prendre un sens en moi. D'une certaine manière, mon travail et son inspiration y trouvent leur compte. Mais pour les enfants, pour leur vie et leur santé mentale? 15 avril. Notre ami David, dont j'ai déjà parlé, entre dans la voie des martyrs. Il ne fut pas toujours un colon juif. Il fut même un goy, un marine durant la guerre du Vietnam, puis un marginal dans Madison. Il était à l'université du Wisconsin en même temps que moi. Nos destins s'éloignèrent et se croisèrent à nouveau ici. La première fois que nous vîmes à Kiryat-Arba, il y a 11 ans, on se heurta à deux charmantes fillettes portant des bérets. Il s'avéra qu'elles étaient les filles de David. Depuis, il est devenu notre ami. Aujourd'hui, sa vie est complètement accaparée par son désir de servir la foi et la nation juive. Brûlant d'un désir missionnaire, son imagination s'est envolée. Après bien des rêves, il s'est trouvé devant une alternative simple: aller jusqu'au bout dans un sanglant désastre à la manière Baruch, ou prendre tous les risques de la paix. Il a choisi cette dernière solution. Tireur d'élite dans l'armée, il a déposé son arme et a commencé à organiser des conversations clandestines. Avec l'aide de rabbins de New York, il propose un plan de paix différent de celui du gouvernement. Il a fait savoir qu'il y avait ici des colons prêts à prendre contact avec le Hamas. Sans l'OLP, ni l'armée dont la seule présence renforce l'hostilité des Arabes. Sans non plus d'observateurs de la Croix-Rouge ou de l'ONU. Il veut obtenir une démilitarisation d'Hébron où le Hamas et les colons juifs se chargeraient eux-mêmes et conjointement de maintenir l'ordre. Selon lui, les sionistes orthodoxes ont, d'une certaine manière, plus d'un point commun avec les musulmans fondamentalistes. Ensemble, ils refusent les mangeurs de porc, la consommation du porc étant prohibée par l'une et l'autre religion. Ils refusent les mangeurs de porc comme observateurs dans leur ville. Ensemble, ils refusent que des étrangers viennent surveiller leurs femmes. Ces jours-ci, les yeux de David brûlent. J'ai peur pour sa famille. Il ne cesse d'affirmer qu'il vaut mieux mourir pour quelque chose que de pourrir dans le service gériatrique d'un hôpital. Hier, il m'a dit « La mort peut être douce ?» Il pense qu'il peut mourir dans cette mission. En fait, il le désire. À coup sûr, Baruch a enfanté une nouvelle génération de martyrs. Et maintenant, Frank s'est engagé dans ce plan de paix secret. Par le réseau clandestin de David, il fait circuler une lettre ouverte adressée en particulier aux universitaires arabes qui accepteraient de s'asseoir à une table pour établir les règles d'une véritable coexistence. « Je supplie Frank de garder un peu de prudence. » L'un des plans de David n'est rien de moins que d'entrer dans une mosquée sans armes et de prier pour la paix. Prier avec les musulmans et considérer que les juifs sont bénis lorsque les arabes s'inclinent vers la Mecque. 16 avril. Journée assez calme autour de moi. L'agitation n'est que dans ma tête. Des extraits de mon journal paraîtront demain matin dans un important quotidien d'Israël. Avril. Impossible de dormir cette nuit. Tout d'un coup, me voilà sur le devant de la scène, alors que c'est à l'opposé de tout ce que j'ai toujours voulu. Dès le matin, des appels pour des interviews à la radio et à la télévision. Il est question d'un reportage sur nous la semaine prochaine. Les enfants se déclarent en vacances pour fêter cela. Au téléphone, Neil me dit que mon journal est maintenant entre les mains des éditeurs. Enchères et surenchères. Les soldats qui campaient sous nos fenêtres ont disparu. Je me sens soudain cette femme qui vit dans une hutte et qui se plaint de sa misère au rabbin. il lui dit d'installer cette chèvre dans sa masure. Lorsqu'elle en sortira, elle connaîtra son bonheur.
Reportage sur toute notre famille par une télévision israélienne qui réalise un programme sur les artistes, musiciens et écrivains de Kiryat Arba. Le journaliste revient sans cesse au mysticisme qu'il pressent partout.
Est-ce qu'il y a des gens ici autour de vous qui parlent de la guerre contre Gog et Magog?
Ma réponse. Si je vous réponds oui, vous savez que ces personnes ne seront arrêtées.
De fait, juste après le massacre, un gardien de sécurité de l'entrée de la colonie, un ivrogne exubérant, a raconté aux journalistes que Baruch venait d'accomplir un acte grandiose. Il est maintenant inculpé d'appartenance à une organisation terroriste. Toujours cette atmosphère totalitaire. Le gouvernement agit comme s'il voulait mettre le mysticisme hors la loi.
20 avril. Je prépare les enfants pour l'école, puis me vient cette idée. Si Baruch Goldstein a montré la voie du retour au strict enseignement de la Bible, s'il a raison, s'il est Samson, alors peut-être l'un de mes fils deviendra Moïse.
Je crois que c'est cela, être juif ici. Être possédé par une inépuisable imagination, tout entière tournée vers la Bible et le désir d'en revivre les moments archétypiques. Et Baruch a enflammé cette imagination. Et moi, comme les autres, je me demande quel est alors mon destin. En l'occurrence, où me mène la publication de ce journal? Alors que ce n'était pour moi qu'un travail purement intime, voilà qu'il rend compte publiquement de la vie que nous menons ici, me plaçant devant une responsabilité que je n'avais pas imaginée. Et comme la lettre d'un lecteur attentif me le montre, tout cela est lié indissolublement à l'acte de Baruch. Il ne m'a jamais semblé avoir mis une tonalité particulièrement spiritualisante dans mes écrits. Pourtant, tout à coup, je reçois des lettres de mystiques, toutes empreintes d'esprit messianique, aussi pleines de louanges que de malédictions. À cause des photos parues dans la presse, il arrive aussi que l'on me reconnaisse lorsque je sors de Kiryat Arba. Mais cette attention, si rapide, si inattendue, me décontenance. Je ne sais comment l'intégrer à ma vie. Je ne sais ce qu'elle signifie véritablement, pour nous ici, pour notre destin. Hier soir à Jérusalem, devant un morceau de pizza et un verre de coca, j'ai tenté de faire le point sur tout cela. Et il m'est revenu cette question posée par Baruch. Si tu crois que Dieu veut que tu accomplisses quelque chose et que tu ne le fasses pas, es-tu un pécheur? Assurément. C'est la bonne question. Et je crois que Dieu attend quelque chose de moi, mais je ne veux ni tuer ni être tué. Je veux vieillir près de mon mari, voir grandir mes enfants et mes petits-enfants. Pas question pour moi d'une sortie apocalyptique, mais d'un adieu lent et autant que faire se peut, sage.
21 avril. Beaucoup de gens dans Kiryat Arba veulent maintenant me voir partir. Comment ai-je osé médire de leur belle ville? Comment ai-je osé dire que les appartements étaient insalubres? Comment ai-je osé dire qu'un couple divorçait? Bien sûr, on ne me reproche rien en face, et cela se passe dans mon dos. Dans le quart de Jérusalem, une grosse femme s'est assise derrière moi et d'une voix tonitruante a déclaré « Si elle a peur de se déplacer, eh bien qu'elle reste là où elle est !» Mais c'est pas une raison pour aller raconter aux Américains toutes ces cochonneries sur nous.
Pour les sionistes orthodoxes, la peur est un sentiment interdit. Mais les gens ont peur. Ils ont même à ce point peur de leurs véritables sentiments,
qu'ils laissent la radio hurler toute la journée pour les oublier. Ils veulent surtout ne penser à rien. D'autres me reprochent de prendre les choses trop à cœur et de les obscurcir. Trop à cœur? Oublient-ils la douleur des autres, ces dizaines de veuves, ces centaines d'orphelins? Lorsqu'on ne partage plus la douleur et le malheur des autres, ne perdons-nous pas notre humanité? Une femme m'a dit « Je suis désolée pour vous, parce que pour moi et ma famille, la vie dans Kiryat Arba est tout à fait agréable. On ne voudrait pas en partir pour tout l'or du monde. » Vivons-nous vraiment au même endroit? 22 avril. Soulagement aujourd'hui. L'atmosphère se détend. Les entrées dans Kiryat Arba sont à nouveau libres. S'il n'est toujours pas permis aux Juifs de faire leur dévotion du Shabbat dans le caveau des patriarches, nous pouvons les faire tout autour. Les cars n'ont plus à attendre pour être escortés par l'armée. Ils ont repris les horaires normaux. Les gens se remettent à sourire et oublient. Les prés de la vallée reverdissent, piquetés de myriades de fleurs sauvages, bleues et jaunes. Je n'ai d'ailleurs jamais vu cette terre si bucolique. Un calme surnaturel semble venir du fond de la terre. Étrange contraste de ces collines avec la mémoire du sang et de l'horreur. 23 avril. David est arrivé chez nous, les yeux toujours brûlants de passion. Il s'est débrouillé avec son réseau secret pour organiser une folie. Son projet est de se faufiler une nuit à travers les barrages qui encerclent Hébron. De l'autre côté, des militants du Hamas le retrouveront, lui banderont les yeux et le conduiront jusqu'à leur chef. « Du suicide ?» s'est exclamé Franck. « Je n'ai pas peur de mourir, » a répondu David. « Après ce que j'ai fait au Vietnam, je n'ai plus de raison d'avoir peur. J'étais dans les Marines en commande avancée. Je faisais de l'observation pour l'artillerie. Je leur disais où bombarder. À cause de moi, des centaines de gens sont morts. C'est mon karma de mourir violemment à mon tour. Je dois payer pour ce que j'ai fait. » Mais la circoncision a purifié ton péché, ton passé de tes péchés. Que non! Les Cohen, les Lévites et les Israélites peuvent faire une absolue repentance et être pardonnés, pas les convertis. Baruch a empoisonné David avec son martyrologue. Nous avons décidé de demander l'aide d'amis pour retenir David. Nous irons voir Eddie. Eddie Driben est né dans le Queens, un quartier de New York. À 14 ans, il est parti vers le nord pour devenir bûcheron et il est passé au Canada. Quelques années plus tard, il a rencontré une famille mormone et l'a suivi dans le Wyoming. Là, ils gardaient leur bétail, devenant un vrai cow-boy. Un jour qu'il redescendait des montagnes, après n'avoir rencontré âme qui vive durant 6 mois, il découvrit que le pays entrait dans la guerre en Corée. Il se fit enrôler et devint éclaireur sur les lignes de front entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. 2 ans plus tard, l'armée US l'envoya en mission secrète en Yougoslavie. Sous l'apparence d'un homme d'affaires tranquille, il transmit des informations sur les troupes russes. Quand ce job se termina, il sauta dans un avion en partance pour Israël. Et une fois arrivé, déclara aux autorités qu'il cherchait une guerre. On l'envoya dans le désert du Négev, où il y avait alors des escarmouches avec les Arabes. C'est ainsi qu'il devint le premier cow-boy de l'État d'Israël. Lors de notre première rencontre à Hébron, il était déjà bien intégré aux mœurs du Moyen-Orient. Sous sa ceinture de holster qui contenait 2 pistolets, il portait des poignards arabes avec des manches ornées, allant et venant sur une grande mule blanche, partageant sa couche et son cœur avec plusieurs épouses et servantes, comme Jacob. 4 pour être précise. Plusieurs années, il vécut dans une grotte des collines, près des pâturages de son troupeau. Les Arabes avaient peur de lui, parce qu'il vivait selon la loi de l'Ouest sauvage. Chacun fait comme il l'entend, et que le plus fort gagne. Notre rencontre suivante eut lieu dans le marché populeux d'Hébron, alors que j'achetais des légumes avec des enfants, qui n'étaient encore que 3. Eddie se disputait avec un arabe, pour je ne sais quelle raison. Soudain, un autre arabe arriva derrière lui avec un marteau et lui en asséna un coup sur la tête. Eddie s'écroula. Mais il eut encore le réflexe de sortir son pistolet. Cependant, pour une fois, il ne tira pas. Il avait trop peur que l'armée le mette en prison. Je courus chercher de l'aide et Eddie s'en tira avec une mâchoire cassée. Aujourd'hui, il nous a écoutés attentivement lui parler de David. Puis, de sa voix traînante, il a répondu « C'est un honneur de recevoir une mort violente lorsqu'on lutte pour une cause qui nous dépasse et pas pour nos petites affaires personnelles. Les Juifs ont connu beaucoup trop de morts déshonorantes ces derniers siècles. Mais Baruch n'est pas le premier à avoir cherché une mort digne et noble. » Dans les temps anciens, même les serviteurs de nos rois savaient sacrifier leur vie s'il le fallait. Ils étaient capables de mourir rien que pour apporter à boire à leur souverain, car c'était un immense honneur pour eux de servir ceux qui vivaient pour une cause plus grande que leur simple vie. David n'est pas un imbécile. Un peu fou peut-être, mais pas un idiot. Et je me suis rendu compte que nous ne trouverons ici personne pour l'aider dans sa folie, exactement comme Baruch ne trouva aucune aide. Il n'y a pas de secours ici pour ceux qui ont décidé que la Bible serait leur modèle. 24 avril. Me voilà embarqué dans un typique conflit moyen-oriental. Selon certains de mes voisins, j'ai insulté Baruch Goldstein en le décrivant comme un être froid. Pour d'autres, c'est sa femme Myriam que j'insulte en révélant certaines conversations que j'ai eues avec elle. Ou j'insulte Kiryat Arba en disant que ses habitants ont peur. Nul n'a peur ici puisque cela est interdit. Et tout cela ne sert qu'à me mettre en avant et dans le seul but de me faire de la publicité pour ma carrière littéraire. En plus, il faudrait que je fasse des excuses publiques. Je tente d'ignorer ce mauvais vent en faisant du ménage dans la maison. Mais 2 heures plus tard, j'entends des tirs, des sirènes et les cris stridents des Arabes. Puis, j'apprends qu'un colon vient d'être poignardé. Un homme seul, sans famille, que l'on voyait souvent se parlant à lui-même. Il est descendu dans Hébron, en plein milieu des rues encombrées, et s'est mis soudain à faire la circulation. C'était un agent de police autrefois. Et voilà, on l'a poignardé. Mais il semble que sa vie ne soit pas en danger. C'est la folie qui continue. 30 avril. Je suis passé à la télévision ce soir. C'était un extrait du reportage fait ici il y a 2 semaines. On me voit à ma fenêtre entourée par 3 des enfants. Toutes mes batailles contre les ismes, nationalisme, sionisme, socialisme. Toutes mes tentatives pour devenir un individu dans une nation soumise à une toute puissante conscience commune n'auront servi à rien. Ils m'ont montré amalgamé au courant grandissant du mysticisme de Kiryat Arba et présenté en compagnie de notre voisin, le peintre Baruch Nachson, qui exhibait sa dernière toile. Une belle conception de l'intervention du Messie dans les lieux sacrés d'Israël. Sous la lettre M, on voit une représentation surréaliste de la ville Méron. Sous le S, une image de Sichem. Et Hébron sous le H. Le reportage présentait aussi Rahav Bahrahi, une femme peintre née aux États-Unis et qui depuis 10 ans se sent investie d'une mission, ramener le texte sacré de la Torah dans la rue. Ses gravures, en noir et blanc, qui contiennent souvent une représentation du caveau des patriarches, illustrent toutes sortes de documents de Kiryat Arba. Dans le reportage, le journaliste lui demande quel est son sentiment sur l'acte de Baruch. Elle regarde le ciel, prend un ton passionné et répond « Merci, merci, maintenant j'entends une musique !» Vient mon tour. « June ? Oui. Y a-t-il de l'inspiration pour vous ici, une muse ?»« Oui, certainement, même si je ne sais pas pourquoi » cette muse a choisi cet endroit. Après quoi, on voit mes enfants chanter une chanson des ethniques sur Hébron. Comment transmettre les choses avec nuance et non sous forme de caricature? Nous avons vu que June est sollicitée pour mettre son manuscrit, au départ prévu pour elle seulement, un document qui lui permettait de mieux supporter l'atmosphère délétère qui l'entoure en le couchant sur le papier. Et voilà que ce document fait l'objet de diffusions diverses, et même d'interviews, pour des radios, des journaux. De toute évidence, les choses se compliquent pour elle. Ce qu'elle écrit plaît ou ne plaît pas. Et elle ne se fait pas que des amis dans cette circonstance. Son couple assez différent des sionistes, qui lentement existait déjà avec pas mal de difficultés, mais c'est de plus en plus difficile maintenant d'ignorer cela. Nous en reparlerons dans notre prochain épisode du livre « Vivre à Hébron » de June Levitt aux éditions Robert Laffont. À bientôt, chers auditeurs.